Bienvenue dans le podcast SIMP, Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Pourquoi certaines personnes ne prennent jamais un kilo, peu importe ce qu'elles mangent, alors que d'autres prennent du poids malgré leurs efforts? La prise de poids est un sujet compliqué. Et la réponse à cette question se doit d'être nuancée. Mais si je vous disais que pour certains, l'équilibre des bactéries de leur microbiote, des bactéries dans leur intestin, pourrait y être pour quelque chose. Pour cet épisode, nous accueillons Emma Jaffer, experte en santé naturelle et naturopathe, pour comprendre ses stratégies pour aider ses clients à se sentir bien dans leur corps. Bonjour Emma Jaffer.
Bonjour.
Je suis très contente de t'avoir ici pour ce nouvel épisode.
Moi aussi, je suis ravie.
Oui, on a pas mal parlé, ça fait un petit temps qu'on parle déjà, qu'on est en contact et puis qu'on parle de cette idée de faire un podcast ensemble. Parce que je sais que tu es une passionnée du microbiote, on en a déjà parlé, et on y reviendra par après. Je pense que le sujet du jour est un sujet qui va fortement intéresser nos auditeurs. Et personnellement, moi, j'ai hâte aussi d'en apprendre un peu plus sur ton parcours. Tu m'as toujours dit que tu avais un parcours un peu atypique, et un peu plus de ce que c'est qu'une séance de naturopathie, aussi, vu que tu es naturopathe. Mais juste avant ça, on a, ça c'est une surprise, je ne te l'ai pas dit avant le départ, j'aimerais faire un exercice auquel tous les invités doivent se plier, c'est l'exercice des questions rapides. Donc je vais te poser une série de questions rapides auxquelles tu peux prendre ton temps pour y répondre, mais tu ne peux répondre que par oui ou par non.
Ok.
Je sais que ce n'est pas facile et du coup tu as droit à un joker. Donc pour une des questions, tu as le droit à faire une phrase complète, mais une phrase,
okay.
Pas plus.
Ouais, j'ai l'impression.
Est-ce qu'il est plus difficile pour certains de perdre du poids que d'autres?
Oui.
Est-ce que deux personnes qui mangent exactement la même chose vont perdre ou prendre du poids de la même manière?
Non.
Est-ce que perdre du poids veut dire se restreindre, calculer ce qu'on mange?
Non.
Est-ce que notre microbiote impacte notre façon de prendre du poids?
Oui.
Ou d'en perdre? Est-ce qu'on peut modifier notre microbiote?
Oui.
Et est-ce qu'on peut influencer notre poids en travaillant du coup sur notre microbiote?
Oui.
Super, mais voilà, t'as même pas eu besoin de ton joker, c'est parfait. Donc Emma, tu es naturopathe,
oui.
Experte en santé naturelle.
Oui.
Comment est-ce que tu en es arrivée là?
Eh bien, comme je te l'ai dit, un parcours pas classique. Dans le sens où je n'ai pas fait l'école des naturopathes, comme il y en a plusieurs qui existent maintenant, tout simplement parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément l'argent nécessaire, ni le temps, il fallait que je conserve mon boulot alimentaire. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite formation qui m'a posé les bases de la naturopathie. Mais à la fin de celle-ci, je n'étais pas capable de mener une consultation. Je n'avais pas, selon moi, les compétences nécessaires pour véritablement accompagner les gens de manière plus approfondie. Et donc, j'ai fait un peu le pari fou de me lancer, de me former auprès de médecins compétents, des médecins fonctionnels qui ont envie d'aller plus loin dans leurs analyses. Qui ont envie d'investiguer, de creuser et surtout en fait de comprendre les causes des déséquilibres qui sont rencontrés. Je me suis formée notamment avec ton père, le docteur Serge Ballon-Perrin, un grand spécialiste du microbiote. Et en fait, c'est vraiment un sujet qui m'a profondément passionnée puisque c'est quelque chose de relativement récent. Les microbiotes, ça fait plus d'un siècle qu'on connaît son existence, mais ça fait qu'une vingtaine d'années, plus ou moins, qu'on se rend compte de l'impact fondamental qu'il a sur notre santé. Et voilà.
Ouais, super. Et du coup, au niveau, comment est-ce que tu faisais pour trouver un petit peu des formations données par eux ou, combien de temps ça t'a pris pour te dire, ok, maintenant je me sens à mon aise de consulter en tant que naturopathe?
Ça m'a pris après l'examen peut-être Ouais, bien 8 mois.
Ah, ça, donc t'as quand même passé un examen.
Oui, il y avait quand
Ouais,
même
c'est
un
ça.
examen à la
Ok,
fin de
ouais.
cette formation. Mais en fait, c'est moi qui me suis dit, bah, j'ai pas forcément les compétences maintenant pour le faire. Il y a des personnes que j'ai connues, voilà, qui se sont quand même lancées. Après, bah, voilà, c'est propre à chacun. En fait, le métier de naturopathe n'est pas reconnu par l'État. Donc toi, si tu veux, demain, tu ouvres un
Ouais, tout à fait, c'est ça.
cabinet
C'est ça que j'allais te demander
et...
un petit peu. C'est quoi naturopathe? On entend souvent voilà, diététicien, naturopathe, nutritionniste. Je crois que c'est parfois un peu compliqué pour les gens de s'y retrouver là-dedans. Comment est-ce que toi, tu définis un naturopathe et comment est-ce que qu'est-ce qui pour toi qualifie déjà les différencie et puis quelle est la plus-value pour toi de ce métier?
Ben, ce qui nous différencie, c'est vraiment qu'en tant que naturopathe, on a cette vision qu'on appelle holistique, donc qui est vraiment globale. On a une lecture du corps vraiment très globale, dans le sens où en consultation, on va aussi bien s'intéresser à l'alimentation qu'à la santé digestive, voir au niveau intestinal, bah, comment tous ces micronutriments sont absorbés, sont métabolisés, à la sphère hormonale aussi, voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Au niveau du sommeil aussi, s'intéresser à bah, la qualité, la quantité, etc. Et puis aussi la sphère psycho-émotionnelle, puisque moi je pense fondamentalement que le corps et l'esprit sont reliés et que ça sert plus à rien de faire de distinction entre les deux.
Exactement.
Donc ce qui nous différencie peut-être, c'est vraiment une vision globale de l'organisme, tout en agissant dessus de manière très ciblée, quoi.
Exactement, ouais. Oui, parce que c'est vrai que ici, toi, par exemple, tu es fort focus sur le microbiote, mais on en a parlé justement dans le podcast précédent de tout l'impact du microbiote sur la santé mentale et inversement. Donc, en effet, vous, le but, c'est d'essayer de prendre tout ça en compte et d'essayer de bien comprendre quel est le milieu dans lequel une personne évolue pour voir bah, tous les points sur lesquels vous pouvez jouer pour
Complètement.
venir aider une personne avec une problématique qui peut paraître isolée. Vous allez regarder tout ce qui y touche de près ou de loin.
Complètement. Mais typiquement, tu vois, aujourd'hui, on va parler bah, de tout ce qui touche au poids. J'ai énormément de personnes qui viennent en consultation avec pas beaucoup d'infos, tu vois. C'est bah, j'ai envie de perdre du poids, je comprends pas, je fais du sport, j'ai l'impression que je mange bien, mais je perds pas de poids. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher bah, au niveau hormonologie, est-ce qu'il y a des déséquilibres? Bien souvent, il y en a quelques-uns, notamment chez les femmes, et surtout bah, au niveau du microbiote, puisque moi je pense fondamentalement que en fait, dès qu'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, eh bien, en fait, ça influe sur toute la métabolisation et la synthétisation hormonale. Donc c'est vraiment, tu vois, avec une problématique, on va vraiment aller chercher les causes qui sont directement liées à ça et agir directement dessus sur les causes, quoi.
On y reviendra peut-être après, mais est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode, nous donner une petite définition, du microbiote et du
Bien sûr.
microbiote intestinal? On sait qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le microbiote et
Oui.
puis le microbiote intestinal. Souvent, on utilise le microbiote pour parler de deux, mais voilà.
Complètement. Mais le microbiote, par définition, c'est un ensemble de micro-organismes vivants qui vivent au sein d'un écosystème qu'on appelle, ben pour le coup, le microbiote intestinal. Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'on a plusieurs microbiotes, en fait. On a un microbiote cutané. On a un microbiote pulmonaire, on a un microbiote urinaire, vaginal chez les femmes, et le fameux microbiote intestinal. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'autant plus de l'intestinal que des autres? Eh bien tout simplement parce qu'on se rend compte que c'est le plus riche, le plus varié et le plus diversifié, et celui qui impacte le plus notre santé.
Parce qu'il va aussi notamment impacter les autres.
Oui, complètement.
C'est quelque chose que tu as appris en cours, hein, ça? Ou c'est plutôt lors de tes formations post-cursus?
Formation
Ouais,
post-cursus,
ok. Parce que c'est vrai que oui, du coup, tu te formes beaucoup sur le côté. Tu m'as même
Oui.
dit que peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tu étais
Oui.
intéressé d'aller à Paris
Oui.
pour suivre encore une autre conférence
Oui, mais il y
sur.
aura ton père d'ailleurs qui
Voilà,
fait
c'est
partie
ça. C'est
du.
sur le microbiote et Alzheimer ou c'est encore une
Et
autre
les
conférence?
maladies
Ah, neurodégénérative,
neurodégénératives.
ouais, du coup, à mon avis,
Ouais.
va probablement parler de
Ouais.
ça. Ok, top.
Ouais.
Bah c'est, en fait, c'est hyper intéressant tout ce que tu me dis parce que
C'est vrai que moi, bon, maintenant, ça fait un petit temps que du coup, je parcours, enfin, que je côtoie beaucoup de naturaux aussi. Donc, je me suis rendu compte de ce que c'était un peu plus précisément. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression, ou certaines personnes me disent, que ben, la naturopathie, en fait, c'est surtout choisir la bonne tisane et choisir
Ah
les
bah
bonnes
oui.
plantes. C'est un petit peu, je pense, un mythe qu'on a ou une image.
Ouais.
En tout cas, en Belgique, je pense qu'en France, ça peut être encore un peu différent. Mais en Belgique, c'est une
Mais en
image
France, je
qu'on a
pense
de
que c'est
la.
encore plus ancré.
Ah oui?
Ouais. Mais en vrai, on n'a pas forcément tort de penser ça. Moi, souvent, on me dit, bah quoi, tu guéris, enfin, tu manges des graines et tu guéris avec des plantes. Alors déjà, on guérit pas en naturopathie. On accompagne le métabolisme à rétablir l'équilibre. En fait, on travaille avec des plantes, bien évidemment, mais on n'est pas des mangeurs de graines et d'aliments fermentés, enfin pas que ça en tout cas. Surtout, moi j'ai une vision qui est vraiment importante à mes yeux et que je mets beaucoup en avant, notamment sur mes réseaux sociaux. En fait, la naturopathie, c'est un équilibre de vie. Donc ça veut aussi bien dire faire attention à son alimentation. Manger des plantes qui font du bien, des graines, des aliments fermentés, mais aussi boire un coup avec ses amis de temps en temps, manger un burger si on a envie de manger un burger de temps en temps. En fait, c'est vraiment un équilibre de vie. Alors, les plantes, évidemment, ça fait partie de nos outils pour aider le corps à rétablir un certain équilibre, mais pas seulement. Il y a l'alimentation, c'est un de nos piliers fondamentaux, le sport, l'activité physique. Parce que la sédentarité, ben maintenant, voilà, on est au courant de tous les dégâts que ça provoque, la régulation du stress. Voilà, on a vraiment plusieurs piliers d'action.
Et ça ressemble à quoi une consultation en naturopathie?
Ben, viens me
Quelqu'un
voir.
qui a.
Chez moi, la première consultation, elle dure 1 heure et demie. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est une conversation avec la personne qui vient, qui expose ses problématiques. Et de là, moi, j'ai tout un protocole de questions à lui poser, pour essayer déjà de comprendre comment fonctionne son métabolisme et quels sont les déséquilibres, quelles sont les causes de ces déséquilibres. Et alors, si besoin, la plupart du temps, moi, j'aime beaucoup travailler avec des analyses, que ce soit des bilans sanguins ou des analyses de sel. En ce qui concerne le microbiote, et ça, on va en parler juste après. Mais l'enjeu d'une consultation, c'est vraiment de comprendre en fait les causes des déséquilibres qui sont ressentis aujourd'hui et de bien garder en tête que les déséquilibres ressentis aujourd'hui, c'est le processus de plusieurs années de déséquilibre au niveau métabolique. Et j'ai à cœur aussi pendant cette consultation, alors il y a beaucoup d'infos, hein, je donne beaucoup d'infos pendant mes consultations parce que moi, je dis à mes clients, dans 6 mois, je ne veux plus te voir, bon, en fonction de la problématique hein, qui est posée sur la table. Mais dans le sens où je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de donner toutes les clés en main à chacun pour être acteur de sa santé.
Ouais, essayer de les rendre les personnes un petit peu autonomes, essayer de
Bah,
les aider un
complètement.
petit peu à identifier ce qui fait qu'ils en sont arrivés là
Bah ouais.
et comment les aider à venir jouer là-dessus pour qu'après ils soient autonomes et qu'ils ne doivent plus spécialement revenir te voir tout le
Complètement.
temps.
Ou dépendre
Ouais.
de médecins, de médicaments,
C'est ça.
etc. Ouais.
Et donc, du coup, dans ta pratique, tu as une grosse partie, comme tu disais, où tu poses des questions qui est ce qu'on appelle une anamnèse.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est qu'une anamnèse et comment tu l'as conduit?
Oui. Une anamnèse, c'est un interrogatoire, on va dire, où on essaie de récolter un maximum d'informations et surtout de mettre les informations qu'on récolte en lien. Donc de faire des liens avec comment fonctionne l'organisme de la personne qu'on a en face de nous, essayer de comprendre pourquoi son métabolisme réagit comme ça et pourquoi on en est là jusque maintenant. On remonte jusqu'à la naissance, hein. Typiquement, peut-être que ton père a parlé hier de la naissance du microbiote et de la manière dont l'enfant est mis au monde, que ce soit par césarienne ou par voie basse, et ben déjà, à ce moment-là, il y a une formation du microbiote qui est très différente et qui va influer sur tout le reste de notre vie.
Ok, donc vraiment essayer de retourner un maximum dans la vie de ton client, oui, et avoir un maximum d'éléments pour pouvoir le prendre en charge.
Ouais, complètement. Ouais.
Et c'est quoi les motifs d'une consultation en naturopathie? J'imagine ça doit être varié.
Ouais.
Qu'est-ce qui revient peut-être le plus souvent? Ouais.
Bah, moi, après, je me suis spécialisée vraiment en hormonologie, mmh, en santé intestinale et en micronutrition. Donc, ça tourne énormément autour de... Bah, il peut y avoir déjà des maladies ou des pathologies, mmh, déjà installées. Par exemple, des gens qui ont la maladie de Crohn ou voilà, des syndromes de l'intestin irritable, par exemple, qui sortent de chez le gastro-entérologue, mmh, et en fait, ils sont perdus, ils ne savent pas trop comment s'alimenter. On leur dit FODMAP, oui, mais FODMAP, ouais, c'est hyper restrictif. Donc voilà, ils sont un peu perdus au niveau information, quoi. Ou alors, j'ai énormément de déséquilibres hormonaux, de plus en, mmh, plus, chez les femmes, des cycles pas réguliers, mmh, des difficultés à tomber enceinte, des envies d'arrêt de pilule. Mmh. Ça, j'ai beaucoup aussi en consultation. Et je pense que le number one sur le gâteau qui revient très souvent, c'est soit un blocage de perte de poids, mmh, soit une prise de poids non expliquée.
Okay, ouais. C'est, ouais, marrant que tu parles de... Donc, tu as des femmes qui viennent chez toi en disant « J'ai envie d'arrêter la pilule, je sais que ça va dérégler beaucoup, ouais, de choses, comment est-ce qu'on m'accompagne sur le côté ?»
Ouais.
Ah, c'est marrant, ça. Donc, ouais. Et vraiment, parce qu'ils ont entendu,
oui,
qu'il y avait une possibilité d'un dérèglement.
Complètement.
Ah, okay. Ouais. Est-ce que c'est lié aussi par... Est-ce que tu as, je ne sais pas... Parce que après, le microbiote, on commence à en parler de plus en plus. Là, j'ai encore vu tout à l'heure sur mon téléphone la RTBF qui faisait,
ah ouais,
un article sur... c'était quoi? C'était le microbiote et les nouveau-nés. Ou bref, l'importance de transférer du coup un bon microbiote au nouveau-né.
Ah, génial.
Et donc, je me demande, est-ce que c'est déjà un phénomène que tu observes aujourd'hui, des femmes qui viennent chez toi en disant « Je veux prendre soin de mon microbiote pour que mon enfant ait un microbiote » ou ça ne va,
non,
pas jusque-là? Non,
non.
C'est vraiment plutôt hormonal alors à ce,
ouais,
moment-là.
Ouais, okay. Et puis en fait, ces femmes-là, elles ne suspectent pas vraiment l'impact du microbiote, mm-hmm, à ce moment-là, mais c'est plutôt ce que j'ai pas dit. J'ai parlé des gens qui ont des maladies déjà installées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des ballonnements, mm-hmm, des gaz après les repas, des reflux, mm-hmm, gastro-œsophagiens, tu vois,
des inconforts chroniques.
Ouais, et ils savent pas vraiment d'où ça vient. Ils font des, bah, parfois, ils ont fait des analyses, il y a rien qui sort, et ils sont un peu en errance médicale.
Ouais.
Et donc ils ont envie de creuser, quoi.
Et à ce moment-là, c'est vrai que l'aspect prise de poids qui fait aussi partie de tes consultations. Est-ce que c'est souvent, à quoi est-ce que ça ressemble une demande? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient avec un nombre assez large de plaintes, y compris la prise de poids, ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent en disant voilà, j'ai envie de perdre du poids, j'arrive pas à maintenir mon poids, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, et au passage ben, j'ai des gaz, j'ai des reflux, j'ai tout. Ou est-ce que tu observes un peu un mix, ou comment est-ce que ça se passe, une personne qui vient chez toi avec cette problématique?
Bah, j'ai les deux. Mais je dirais quand même que ce sont plus des personnes qui ont des inconforts au niveau digestif, mm-hmm, et qui me disent « Hey, by the way, j'ai pris du poids ou j'arrive pas à me débarrasser de mes kilos en trop.
Mm-hmm. »
Donc c'est plutôt des personnes, alors peut-être qu'inconsciemment elles font déjà le lien entre problèmes digestifs, mm-hmm, et difficulté à perdre du poids. Ça, je sais pas te répondre.
Ok.
Ouais.
Tu es fasciné par le microbiote, on en a parlé au début, ça ne fait que revenir dans la discussion. Je le sais aussi parce que, comme tu disais, parfois quand tu as certaines personnes qui viennent avec des inconforts digestifs et que tu sens que ça traîne un petit peu, tu veux leur faire une analyse pour savoir justement plus précisément ce qui se passe, donc une analyse du microbiote. C'est que tu en recommandes à tes clients de les faire chez nous pour pouvoir avoir après un axe plus précis,
ouais,
pour savoir ben voilà, est-ce qu'il faut justement faire un régime FODMAP ou au contraire est-ce qu'il faut augmenter les régimes
fibres,
voilà,
ou...
c'est ça,
ouais.
Donc du coup je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ta pratique,
ouais.
Et on en reparlera peut-être un petit peu plus au niveau, voilà, que manger en fonction de quel microbiote, ça on en reparlera peut-être un peu à la fin. Mais j'aimerais te demander, du coup, comment est-ce que tu amènes le sujet du microbiote dans une consultation ? Parce que j'imagine que les personnes ne viennent pas chez toi en disant « j'ai un problème de microbiote ».
Non.
Comment ça se passe ? Je sais pas, peut-être quels sont les signes d'un microbiote perturbé ? Est-ce que c'est un sujet que tu abordes directement ? Est-ce que tu abordes même le sujet du microbiote avec eux ?
Systématiquement. Ouais. Ouais. Alors, moi, ils me connaissent pour leur ramâcher le microbiote et le microbiote. Souvent, ils ont entendu parler, ils connaissent le mot microbiote, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Et je mets un point d'honneur à leur expliquer. Alors, très souvent, j'en parle quand on est au niveau alimentation, ou alors quand on parle, ben moi je, dans mes consultations, j'adore parler caca, on passe beaucoup de temps à parler vaisselle, des gaz, etc. Parce que, en fait, ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, quand on a des problèmes digestifs. Après, il y a tout ce qui en découle derrière. Et donc, quand on est dans, voilà, dans cette phase-là, pendant la consultation, je leur explique ce qu'est le microbiote, ce qu'est la barrière intestinale, ce que c'est la porosité intestinale, ce que c'est la dysbiose intestinale, pour les sensibiliser et leur faire comprendre l'impact en fait, bah, de leur alimentation, notamment au quotidien, mais pas que, hein. Il y a plusieurs facteurs qui influent sur le microbiote, et je pense qu'on en parlera après. Mais oui, c'est à ce moment-là que je leur explique. Et en fait, j'ai trouvé des mots simples, des manières simples, un peu schématiques de leur expliquer. Et j'ai l'impression que ça leur parle beaucoup. Et alors, elles m'envoient, je dis elles parce que j'ai beaucoup de femmes en consultation, peut-être que voilà, on est plus sensible à prendre soin de soi, mais j'ai aussi des hommes. Mais souvent, alors, ils m'envoient la composition de leur assiette, ou en disant « ah ben, mon microbiote va un peu mieux ». Voilà, c'est un mot qu'elles commencent à intégrer dans leur quotidien.
Et de comprendre, en fait, pourquoi on nous a toujours éduqués. En tout cas, ceux qui ont reçu une éducation peut-être un peu plus portée sur la nourriture saine, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de systématique, hein, ça dépend. Voilà, moi, j'ai forcément, avec un médecin nutritionniste, j'ai été sensibilisé à ça très tôt, mais je vois bien autour de moi que c'est pas le cas de manière systématique. Et donc, je trouve ça chouette de réussir à faire le lien, en fait, de ben, pourquoi est-ce qu'on va nous demander de manger certains aliments ? Parce que c'est vrai que, ok, c'est bon pour toi. Oui, d'accord, mais je pense que quand on percute le « ah oui, mais en fait, ça va aider ce mécanisme-là », je pense que c'est beaucoup plus motivant. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des personnes qui t'envoient les photos de leur recette, qui vont jusque-là, qui sont dans…
Voilà, qui sont hyper motivées, hyper… Mais tu vois, en fait, je travaille comme ça parce que si je le faisais pas comme ça pour moi, ça marcherait pas. Ouais. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, été hyper curieuse, besoin de comprendre les choses, tu vois, c'est parce que ça m'a jamais suffi. Il fallait qu'on m'explique la cause, le pourquoi du comment des trucs. Et en fait, surtout pour l'alimentation, où bah, on a tendance à avoir ces petites habitudes qui sont faciles et c'est un mécanisme, tu vois. Souvent, les gens, ils me disent, bah, au supermarché, moi, je prends tout le temps les mêmes choses. Alors que si tu fais l'effort d'expliquer, bah, en fait, cet aliment-là ou cette catégorie d'aliments va influer de telle manière sur ton métabolisme et notamment sur ton microbiote, et bah, en fait, ça donne envie d'y aller, de tester, de goûter de nouveaux trucs. Et
c'est marrant, ça fait presque, sans le faire exprès, un peu une pub pour Simp, où on est vraiment dans l'explication de pourquoi tel déséquilibre va expliquer pour leur faire un lien avec voilà pourquoi vous devez manger tel ou tel aliment. Mais si j'étais voilà quelqu'un en consultation qui j'ai pas un père médecin nutritionniste spécialiste du microbiote, j'en ai jamais entendu parler. Tu peux m'expliquer justement ta façon d'expliquer la barrière intestinale et l'impact que va avoir ces bonnes bactéries sur cette barrière intestinale. Comment est-ce que quelle est un petit peu ton explication sur laquelle tu reviens souvent ?
Alors, c'est très schématique. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris pour parler au plus grand nombre. Mais en fait, j'ai tendance à expliquer que la barrière intestinale, donc les muqueuses de l'intestin, notre tube digestif, il est micro-perforé. Donc en fait, il y a plein de mini-trous pour laisser passer les produits de la digestion. Et en fait, cette barrière intestinale, elle est très sensible à l'inflammation qui est causée par de l'acidité. Alors l'acidité, elle vient de plusieurs facteurs, que ce soit la pollution, l'alimentation, le stress. Mm-hmm. Souvent, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on dit oui, c'est le stress. Oui, d'accord, mais alors comment ce stress en fout dessus ? Eh bien, en premier lieu, en fait, nos bactéries intestinales, elles sont habituées à vivre à un certain pH, à une mm-hmm. certaine acidité. Dès lors que ce pH se modifie, eh bien, il y a certaines bactéries qui sont moins résistantes et qui vont mourir, et d'autres qui le sont mmh. plus et qui vont en profiter pour proliférer. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a les premiers déséquilibres du microbiote, qu'on appelle dysbiose intestinale. Mmh. Alors, c'est un gros mot pour dire déséquilibre du microbiote, au ouais. niveau des bactéries et microbiotes. Et en fait, dès lors qu'il y a un déséquilibre, eh bien, il va y avoir plusieurs réactions en chaîne. Principalement, donc, au niveau de la muqueuse intestinale, si tu veux, on a... Bon, bah, toi, tu le sais, mais... On a un mucus en fait qui protège cette barrière intestinale, qui fait un peu le rôle d'agent filtreur. Mmh. Et donc en fait, les toxines, les déchets métaboliques, etc. sont éliminés dans les selles, et tout ce qui est micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments, mmh. etc. ils passent la barrière intestinale, et puis on en bénéficie dans le sang, etc. Sauf que quand il y a de l'inflammation, et ben le mucus qui protège cette mmh. barrière, il est attaqué par l'acidité, et il devient de plus en plus fin. Et donc, il fait moins bien son rôle d'agent filtreur. Et donc, en fait, si tu veux, les muqueuses de notre intestin, c'est des jonctions serrées. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est comme plein de petits bonhommes qui se donnent la main, comme mm-hmm. ça, tout collé serré tout le temps. Et puis, au plus il y a de l'acidité, au plus il y a de l'inflammation, et ils vont se lâcher les doigts un par un, jusqu'à se lâcher la main. Et en fait, il y aura des trous... plus grand que ce qu'il ne devrait être. Mmh. Et c'est à ce moment-là que certaines macromolécules, donc certains déchets, toxines, etc., arrivent à passer notre barrière intestinale. Sauf qu'ils n'ont rien à faire de l'autre côté. Donc on a une réaction du système immunitaire qui vient attaquer ces molécules qui n'ont rien à faire là. Mmh. Et ça crée d'autant plus d'inflammation intestinale.
C'est ça. Donc en gros, c'est un petit peu comme si on avait un gros canal d'égout,
ouais.
où il fallait que toutes les mauvaises choses sortent.
Ouais.
Mais lorsqu'on a un déséquilibre, les boulons de cet égout se desserrent, et au lieu de juste laisser passer les nutriments, les choses importantes, il y a aussi les substances toxiques qui sortent de ce nœud d'égout.
Ouais.
Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la réaction du système immunitaire, parce que c'est vrai que souvent on parle parfois de, et pendant le Covid on a beaucoup parlé de ça, du système immunitaire qui s'emballe,
ouais.
en fait comme ça une surréaction. Donc mm-hmm. Moi, de la façon dont je l'ai compris, c'était qu'en fait tu as un agent extérieur qui vient menacer ton système, et du coup tu vas avoir une réaction immunitaire pour neutraliser
les agents infiltrés pathogènes.
Ouais. les méchants dans James Bond.
Voilà.
Et sauf que quand il y a une inflammation, il y a une surréaction.
Ouais.
Et donc, pour venir neutraliser un soldat, on envoie l'armée complète.
Quoi. Exactement.
C'est ça.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et du coup, et ça, c'est quelque chose que tu associes souvent à une prise de poids. Quels sont les signes, parce que là on a parlé parce que c'est le déséquilibre un petit peu du microbiote,
ouais.
de manière très exagérée, enfin de manière très vulgarisée.
Oui.
On en découle sur le fait que ce déséquilibre ça va générer énormément de problèmes un peu partout dans le corps. Un de ces problèmes est cette inflammation. On parle souvent d'inflammation chronique, des gens
ouais.
qui ont même des inflammations autre part qu'au niveau digestif,
ah ouais,
et qui est en fait lié à ces substances qui passent par le canal d'égout.
Ouais.
Quel est le lien maintenant, si on revient un petit peu plus sur la prise de poids, comment est-ce que tu fais le lien, ou comment est-ce que tu expliques le lien à tes clients ou tes clientes de déséquilibre du microbiote et prise de poids, ou équilibre du microbiote et poids stable?
Ouais. Et la première chose que je leur explique, donc, c'est cette fameuse inflammation. Et en fait, je leur explique que dès lors qu'il y a une inflammation, l'absorption des micronutriments ne se fera pas de manière suffisante. L'absorption et la métabolisation ne sera pas de manière suffisante. Puisque...
C'est quoi la métabolisation ?
La métabolisation, c'est la capacité de notre organisme à convertir certaines mmh. molécules en d'autres molécules qui vont l'aider à synthétiser, donc à créer des hormones, des neurotransmetteurs, des choses utiles à l'organisme.
Et du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que quelqu'un qui a un bon métabolisme perd plus, enfin, a généralement, que au mieux ton métabolisme fonctionne, au plus facile c'est de maintenir un poids stable?
Eh bien, parce qu'en fait, au niveau de l'assimilation des micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, eh bien, ça va mieux se faire. Et en fait, assimiler ces micronutriments-là, c'est fondamental pour synthétiser notamment les hormones essentielles. Très souvent, une prise de poids, elle est directement corrélée à un microbiote déséquilibré. Et quand ça fait un petit temps que le microbiote est déséquilibré, eh ben, on a des déséquilibres au niveau hormonal. Donc, ouais, c'est comme ça que je leur explique.
Donc, voilà, déséquilibre du microbiote vers un métabolisme qui fonctionne moins bien.
Oui.
C'est ça. Le métabolisme qui, comme tu l'expliquais, permet aussi de stabiliser ton poids. Comment est-ce que tu peux agir sur ton métabolisme aussi, peut-être en dehors du microbiote. Donc, vraiment, en fait, la réaction clé que tu expliques, une des réactions clés, c'est la façon dont va fonctionner ton métabolisme.
Ouais.
Raison d'avoir un bon microbiote, c'est pour que ton métabolisme fonctionne correctement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui jouent sur le métabolisme?
Ouais, complètement. Bah, le numéro un, le grand fléau, c'est la sédentarité. On est des êtres de mouvement, on doit mettre son corps en mouvement, on doit faire circuler les fluides, on doit s'oxygéner. Donc ça, c'est le number one pour booster son métabolisme, le mettre en mouvement, lui donner le mouvement nécessaire dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. L'alimentation, alors certainement que ton père en a parlé hier ou dans d'autres podcasts, mais maintenant, de manière scientifique, il y a énormément d'études qui ont été faites sur l'impact de l'alimentation sur le microbiote intestinal. Donc, privilégier les fibres. Les fibres, en fait, qui vont nourrir certaines bactéries du microbiote intestinal qui vont les aider à proliférer. Et notamment, il y a certaines bactéries, bon, sans trop rentrer dans les détails, mais en fait, quand on va digérer certaines fibres, ben, on va produire... Nos bactéries vont produire des acides gras à chaîne courte, notamment l'acétate et le butyrate, qui sont de puissants anti-inflammatoires pour les muqueuses de l'intestin, donc réduire cette inflammation et qui permettent la prolifération de bactéries saines au niveau intestinal. Et puis, typiquement, au niveau alimentation, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour justement nourrir ces bonnes bactéries et avoir un impact positif alors sur un tas de choses, mais aussi sur son poids.
Parce que, donc ça c'est intéressant ce que tu dis de ces bonnes bactéries qui produisent ces acides gras à chaîne courte qui permettent de soigner la muqueuse ou d'éviter qu'elle s'enflamme. J'avais lu aussi qu'elles avaient un impact sur justement ce fameux pH dont tu parlais, qu'elles permettaient de conserver un environnement qui était prolifique pour elles, mais qui n'était pas bon pour des bactéries plus inflammatoires.
Complètement.
Donc c'est ça aussi l'effet qu'elles ont. Et une des sources de nourriture de ces bonnes bactéries, ce sont les fibres.
Oui,
est-ce que des sources. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu veux dire par fibres? Comment est-ce que tu expliques, toi, à tes clientes, ce que c'est que les fibres? Où est-ce qu'elles peuvent en trouver? Comment en trouver? Parce que, voilà, après, il y a aussi tout ce qui est fibres et FODMAP, on sait que dans certains déséquilibres du microbiote, il y a trop de bactéries de fermentation qui sont développées, et dans ce cas-là, il faut plutôt éviter les FODMAP, mais c'est super important de continuer à manger des fibres.
Ouais.
Comment est-ce que tu décortiques tout ça pour
tes clients ? Leur expliquer.
Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute.
Pour leur expliquer, comme tu dis, en fait, aussi en naturopathie, ce qui est très important, ce que j'ai pas forcément dit tout à l'heure, c'est l'individualisation. Donc typiquement, toi, tu vas venir avec un problème en disant, ben voilà, je veux perdre du poids, j'ai des soucis digestifs, etc. Mais tu ne devras pas forcément manger la même chose que la personne qui a les mêmes problématiques que toi. Tout simplement parce qu'encore une fois, on a tous un microbiote intestinal avec des bactéries qu'on retrouve chez la plupart des individus, quoi. Mais on a surtout un microbiote propre à chacun. Et en fait, en fonction de ton alimentation que tu as eue les années qui ont précédé, du stress, etc., et ben, tu vas avoir un déséquilibre vraiment très différent par rapport à quelqu'un d'autre.
Et de la naissance aussi.
Et de la naissance, complètement, ouais. Donc, par exemple, les analyses de microbiote que tu proposes avec SIMP, ça a tout son intérêt dans une vraie prise en charge ciblée, puisqu'il n'y a fondamentalement que comme ça qu'on peut savoir exactement sur quelles bactéries on doit agir de manière très ciblée, etc.
Après, de manière générale, parce qu'en effet, tu as raison, c'est tout ce que nous, on fait, l'individualisation, mais je pense que de manière générale, les fibres sont une source ultra importante pour tout le monde. Après, certains, justement, il va falloir éviter plutôt les FODMAP que d'autres, mais de manière générale, je ne pense pas qu'il y ait de cas où une personne doit éviter de manger des fibres. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est les fibres, dans quoi est-ce qu'on en retrouve et lesquelles, toi, tu privilégies dans le sens où elles sont facilement trouvables en Belgique ou en Europe, en tout cas, là où on vient, qu'on va retrouver peut-être à différentes saisons parce qu'on essaie un maximum de manger avec les saisons.
Ouais.
On essaie d'éviter les pesticides aussi parce que voilà... enfin. Je
ne
vais pas trop te couper l'herbe sous le pied, mais on sait qu'on en retrouve beaucoup dans les céréales complètes. Le problème, c'est que les céréales complètes, si elles ne sont pas bio, elles sont vraiment bourrées de pesticides. Comment est-ce que tu gères tout ça ou comment est-ce que tu aides tes clientes à devenir autonomes là-dedans, dans le remplissage de leur panier, en fait, à la
suite. C'est une question hyper pertinente parce que souvent, on me dit, moi, je leur dis privilégier le bio. Alors, parfois, je leur donne des listes d'aliments qui sont moins touchés par les pesticides, etc. Mais c'est vrai qu'on dit, mais le bio, c'est impayable, machin. Moi, je dis toujours, on fait au mieux avec ses moyens. Le mieux, de toute façon, en 2024, c'est de consommer bio le plus possible. Bien qu'il faut rester conscient que dans le bio, il y a quand même des pesticides. Notre terre, on l'a foutu en l'air, donc il y aura toujours des traces. Mais pour en revenir à ta question sur les fibres, alors, ça dépend de chacun, tu vois, il y en a qui viennent et qui ont une alimentation hyper portée sur, comme tu dis, les céréales complètes, manger, varier les fruits et légumes, etc. Il y en a d'autres qui mangent beaucoup plus encore de viande que de fibres, donc il faut vraiment s'adapter à chacun.
Les fibres, on trouve ça généralement dans les légumes, on va retrouver plus, et dans les céréales complètes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on retrouve des fibres?
Ouais, fibres, légumes, céréales complètes, légumineuses.
Légumineuses.
Okay. Ouais. Donc en fait, ouais, tout ce qui est riche en polysaccharides, donc les sucres complexes, qui vont nourrir les bonnes bactéries, donc augmenter d'autant plus ces apports-là.
Donc du coup, les légumes, ça, super, les légumes dans lesquels on retrouve des fibres, généralement, c'est pas quelque chose qui va nous faire grossir aussi, c'est quelque chose qu'on peut manger en grosse quantité. Comment est-ce que tu fais justement pour continuer à avoir un apport en protéines assez élevé? Parce que généralement, peut-être que tu peux en parler un petit peu, généralement on essaie de dire que quand on perd du poids, c'est intéressant d'essayer de manger peut-être plus protéiné.
Ouais.
Comment est-ce que tu fais pour à la fois réduire un petit peu la consommation de viande, déjà pour notre planète, pour le portefeuille, pour les animaux et aussi surtout pour notre microbiote, parce qu'on sait qu'une alimentation trop riche en protéines animales, en graisse animale saturée ou même en viande rouge, va avoir un impact sur nos bactéries, va permettre la prolifération de certaines bactéries plus inflammatoires que de bonnes bactéries, parce que par définition, dans la viande, il y a zéro fibre. C'est pas le problème, il y a d'autres substances, mais en plus de ça, par définition, il y a zéro fibre. Comment est-ce que tu fais pour créer une assiette qui est riche en protéines, qui n'est pas trop riche en viande, pas qu'il faut arrêter
Bien sûr.
Je suis pas en train de dire qu'il faut tous arrêter de manger de la viande, si on veut en diminuer, comment est-ce qu'on fait pour, en fait, c'est ma question, comment est-ce qu'on fait pour diminuer peut-être la viande, augmenter les fibres, tout en augmentant l'apport protéiné?
Eh bien, moi, je parle beaucoup des protéines végétales. ma vision des choses, c'est qu'il, voilà, en tout cas, moi, je pense vraiment qu'on est des omnivores et que c'est bien de manger tout sans en abuser. Donc, je pense que c'est nécessaire d'avoir de l'apport en viande, enfin, en protéines animales et de l'apport en protéines végétales. Mais dans ce cas de figure-là, bah, je vais plutôt privilégier les protéines végétales, les sensibiliser à l'impact des protéines animales sur le microbiote et surtout, en fait, réduire l'apport en céréales, enfin, en féculents, qui est beaucoup trop présent dans notre alimentation.
Par féculents, tu veux dire, c'est quoi les féculents ?
Bah, les féculents, c'est tout ce qui est pâtes, pommes de terre, riz, et privilégier voilà, tout ce qui est les céréales un peu plus complètes, bio, je mets un point d'honneur à chaque fois, bah, comme tu l'as souligné tout à l'heure, donc le quinoa, le camout, le sarrasin, l'épeautre, le petit épeautre, etc. Et vraiment venir réduire cet apport-là, parce que on se rend compte que dans notre alimentation, on a beaucoup plus de céréales que de légumes, par exemple, de fruits et de protéines au quotidien, quoi.
Et on y a un tout petit peu touché. C'est quoi les ennemis d'un microbiote en bonne santé ?
Alors, number one, les antibios. Alors, les antibios sont absolument nécessaires. On ne remet pas du tout ça en question. En revanche, bah, y a les fameuses pubs, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une énorme campagne lancée comme sur ça. Tout simplement parce que les antibios, alors quand on soupçonne une infection bactérienne, eh ben, généralement, on ne sait pas vraiment quelle bactérie est responsable. Et donc, en fait, on va taper assez large. On va prescrire des antibios à large spectre, quoi. Et en fait, donc oui, ça va attaquer ces mauvaises bactéries et voilà, et rétablir l'équilibre, mais ça va aussi attaquer des bonnes bactéries du microbiote intestinal. Et ça, on veut absolument éviter. Donc, mon meilleur conseil, c'est quand vous avez une prise antibio, évidemment, on prend les antibios parce qu'il faut les prendre, mais en parallèle, on fait une cure de probiotiques. Alors, juste après, je vais expliquer un peu ce que c'est, peut-être. Mais les probiotiques vont permettre de renflouer un peu le microbiote intestinal de bonnes bactéries. Voilà, on les prend espacés de 3 heures des antibios pendant toute la prise antibiotique jusque 2 semaines après. Et là, on est tranquille pour éviter, bah, tu sais, les diarrhées qu'on a tendance à avoir après les antibiotiques, les ballonnements, les gaz, etc. Chez les femmes, beaucoup de mycoses vaginales après la prise antibio, puisque bah, chez nous, le vaginal et l'intestinal sont physiologiquement liés, quoi. Donc, number one, les antibios. Numéro deux, les aliments ultra transformés. Ça, c'est un poison pour notre microbiote intestinal. Les sucres raffinés, ça décime notre microbiote intestinal. Ça permet la prolifération de, bah, finalement, de bonnes bactéries. On parle souvent des candida albicans quand on a une candidose qui peut être responsable, bah, par exemple, chez les femmes de mycose vaginale à répétition. En fait, c'est une prolifération au candida albicans. Donc, c'est une famille voilà, de bactéries qui sont propres à notre équilibre microbiotique, quoi, mais qui se nourrissent de sucre. Et donc, au plus on va avoir une alimentation sucrée, et bien au plus ces candidats vont en profiter pour proliférer.
Et donc, c'est ce candidat qui est même un champignon, c'est ça, qu'on a tous, mais qui se prolifère de manière excessive chez beaucoup de gens, même, je sais qu'il y a une grosse étude qui est sortie là-dessus.
Ah ouais, mais il y a du sucre partout.
Voilà, on disait c'est de misdiagnosis en anglais. C'était que voilà, c'est quelque chose qui avait été mal diagnostiqué depuis des années où on dit en fait vous êtes intolérant au gluten. Donc énormément de personnes pensent être intolérant au gluten, alors qu'en fait c'est plutôt la présence d'une candidose.
Trop de sucre,
c'est ça. Et donc, du coup, ce champignon se nourrit de glucides raffinés.
Oui.
Mais les glucides raffinés, c'est quoi ? On en retrouve partout maintenant.
Absolument partout. On a du sucre partout et on s'en rend même pas compte. Moi, j'aime bien un peu, tu vois, sensibiliser et puis choquer en même temps juste pour que ça reste en tête. Mais une baguette de pain, c'est l'équivalent de 4 canettes de coca. Personne nous dit ça.
Pain blanc.
Et personne nous dit ça. Et quand on se prend un sandwich, bah, on s'enfile 2 canettes de coca. Et puis généralement il y a un petit soda qui va avec. Bah oui, donc on est à trois quoi. C'est absolument hallucinant. Donc le sucre, il y en a partout. Et mais tout ce qui est aussi les conservateurs, les additifs, les colorants, etc. Ça décime le microbiote.
Oui, il y a énormément d'études qui ont fait le lien justement entre tous ces conservateurs et la prolifération de mauvaises bactéries. Donc, tu as dit les aliments ultra transformés, les antibiotiques, les aliments ultra transformés, le sucre raffiné, enfin les glucides raffinés, qu'on va retrouver aussi dans le pain blanc, les pâtes blanches.
Complètement. Le gluten, l'alcool. L'alcool, ouais.
C'est ça. Gluten, mais où justement on se rend compte en fait que
c'est plutôt lié au sucre.
Ouais. C'est ça.
Ouais. Le lactose aussi, très riche en sucre.
Et ces quatre-là. Et puis les conservateurs aussi.
Les conservateurs et le stress, ennemi du microbiote. Voilà, un grand fléau en consultation de plus en plus de personnes en burn-out, en dépression, etc. Le lien maintenant commence à être véritablement établi avec de grosses études par rapport au microbiote.
Dans un sens comme dans l'autre, quoi.
Des complètement. Personnes, ouais. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on parle de deuxième cerveau maintenant. Puisqu'en fait, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait on a énormément de neurones dans notre intestin et qu'en fait, il y avait véritablement un axe intestin-cerveau et plus seulement cerveau-intestin.
C'est ça, ouais.
Et il y a énormément d'informations, qui émanent des intestins et qui sont montées...
Et donc, du coup, et en plus du point de vue esthétique de la perte de poids, le fait d'avoir un microbiote en pleine forme... ça permet de rester au final en bonne santé.
Ah bah ouais, complètement. Et sur tous les points. On va certainement pas épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais tout ce qui est maladie inflammatoire, maladie chronique, le diabète, l'obésité, maintenant, il y a vraiment des études solides qui montrent le lien direct entre microbiote déséquilibré et le développement de ces maladies-là, même les maladies neurodégénératives.
Donc tu vas justement voir encore plus te former là-dessus dans deux semaines. Top.
Ouais.
À quoi ressemble ton assiette, toi, de manière générale? Après, généralement, on dit que c'est un peu un test tricky
les plus mal chaussées. Moi, j'aime beaucoup. Alors, sans jamais être dans le contrôle, c'est une valeur aussi que j'essaie d'apporter un max. Pendant mes consultations, j'ai pas de plan alimentaire précis, on se fait plaisir, voilà. Mais mon assiette, moi j'aime bien une assiette bien colorée. Je suis assez cliché naturel en fait, je crois. Bien colorée, féculent à indice glycémique bas. L'indice glycémique bas, en gros, c'est la charge de sucre que contient un aliment. Donc tantôt là, on parlait des féculents. Eh bien, c'est limiter ce sucre pour justement... le bien-être de nos bactéries intestinales. Donc c'est tout ce qui est pour la plupart des grains anciens, donc le quinoa, le sarrasin, les poivres, etc.
Et donc du coup c'est pas la même chose que le fait de compter les calories, ou peut-être je te laisse terminer ton assiette et puis on revient là-dessus, parce que c'est quelque chose de super important pour comprendre un petit peu les mécanismes de la perte de poids et pourquoi certains régimes fonctionnent peut-être sur du court terme, mais ne fonctionne pas sur du long terme.
Ouais.
C'est quoi la différence entre les calories? On va dire, il faut essayer de par calorie que tu ingères, il faut brûler autant de calories. Ou je sais que c'est un peu une méthode ancienne de pensée, parce qu'on se rend bien compte qu'une calorie dans un aliment riche en fibres ou une calorie dans un aliment où il n'y a pas de fibres, c'est pas du tout la même chose.
Ouais. Dans la balance, ça vaut rien, quoi.
Et quel est le lien avec, par exemple, cet indice glycémique? Comment est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ces concepts de manière facile?
Ouais, moi je vais peut-être un peu te décevoir dans le sens où l'apport calorique, ça me parle pas. Je suis incapable de te dire dans un burger il y a tant de calories, dans un steak il y a tant de calories. Parce que, comme tu as dit, c'est un peu ancien, c'est un peu obsolète pour moi. Et ça n'a aucun impact sur... la perte de poids. Tout simplement pourquoi? puisque très souvent, les personnes qui veulent perdre du poids, elles font des régimes X, Y, Z. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles sont en carence micronutritionnelle. Mmh. Carence micronutritionnelle, ça veut juste dire qu'elles manquent de certains micronutriments. Et ces micronutriments ont un impact direct, alors déjà en fonction de ce qu'on ingère sur ce fameux microbiote, mmh. et aussi sur toutes les en fait, tout ce qu'on va fabriquer dans notre corps. Mmh. Et donc, je ne peux pas vraiment te répondre en fonction des calories, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'avoir des apports suffisants en oméga-3, mmh. en fibres, en protéines, en féculents. On doit avoir des assiettes les plus complètes possibles. Quoi.
Donc toi, tu ne comptes pas une assiette par son apport en calories, tu la comptes plutôt par son apport micronutritionnel.
Exactement.
Et aussi, du coup, en indice glycémique.
Bien sûr. Type. Ouais.
Donc, je te laisse revenir à ton assiette maintenant, mais c'était important pour moi de faire cette pause sur ce concept où on refera évidemment un podcast, nous, là-dessus. Peut-être qu'on en fera un aussi ensemble là-dessus. Parce que c'est un sujet, on peut en parler des heures.
Ah ouais, c'est clair.
Ton assiette, donc du coup colorée.
Mon assiette.
Indice glycémique bas au niveau des féculents que tu vas choisir.
Ouais. J'aime bien mettre 1, 2 ou 3 légumes. Voilà, vraiment. Mm-hmm. Voilà, ça dépend de mon envie du moment. Et une protéine. Alors, mon combat de tous les jours, c'est avoir un apport en protéines suffisant. Mm-hmm. Beaucoup de gens ne consomment pas suffisamment de protéines. Ça ne veut pas dire manger un steak et du poisson.
C'est quoi un apport suffisant en protéines? En exemple, imaginons je mange du poulet.
Ouais.
Ça ressemble à quoi mon morceau de poulet? Et puis de l'autre côté, je mange, justement des légumineuses riches en protéines.
Ouais.
Au niveau quantité, comment est-ce que tu fais le rapport généralement?
Eh ben, typiquement, tu pèses combien?
90.
90.
Dernière fois que je me suis pesée.
Ok. T'as un bon microbiote, donc ça doit pas... Voilà. 90 kilos, eh bien, pour une personne pas forcément sportive, avec pas de soucis hormonaux, mm-hmm. ou voilà, une personne saine, on va dire, toi, tu devrais consommer plus ou moins 90 grammes de protéines par jour. Donc en fait, on part du principe que c'est plus ou moins 1 gramme de protéines par kilogramme de poids. 90 grammes de protéines, on n'y arrive pas comme ça. Dans le sens où ça ne veut pas dire 90 grammes de viande, par exemple. De mémoire, comme ça, 100 grammes de viande rouge, c'est 20 grammes de protéines. Mm-hmm. 2 œufs, c'est 18 grammes. Mm-hmm. Donc, tu vois, on n'y arrive pas vraiment comme ça. 100 grammes de lentilles, je crois que c'est 18 grammes aussi.
Ah, et donc, il y a un rapport quand même assez élevé en protéines dans des lentilles. Donc,
ah ouais, complètement.
Donc on est presque au même équivalent que 100 grammes de...
Ah oui, complètement. Les protéines végétales ne sont pas moins protéinées que les protéines animales. Le steak, moi j'ai créé un tableau des féculents que je remets à mes clients à la suite de la consultation, ils sont genre au milieu. Au-dessus, il y a tout ce qui est le tofu, le seitan, le tempeh, la spiruline, c'est la poudre verte, là, les algues vertes, qui font partie des aliments les plus protéinés.
Après, il faut savoir les cuisiner. C'est un peu le problème, Joanne. Si tu mets un steak dans ta poêle, normalement, si t'aimes bien la viande, ce sera bon.
Ouais.
Tu mets des lentilles dans une poêle, si t'assaisonnes pas, à mon avis, tu vas pas prendre le même plaisir.
C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux intégrer des épices bonnes pour ton microbiote intestinal.
Exactement.
Par exemple, le curcuma hyper anti-inflammatoire, le gingembre qui va l'activer, le poivre.
Tu donnes un peu des... Je sais que ton compagnon a été chef pendant longtemps, donc j'imagine que tu cuisines bien. Ou en tout cas,
il
cuisine bien. Mais donc, tu sais ce qu'il faut mettre dans dans une assiette pour que ce soit goûtu. Est-ce que tu donnes un petit peu ces conseils en consultation? Comment est-ce que tu fais? Voilà, quelqu'un qui te dit... Bah, moi, je mange des pâtes blanches avec un steak tous les soirs, avec de la compote sur le côté.
Ouais.
Forcément, au niveau apport micronutritionnel, c'est un peu light. Comment est-ce que tu vas lui apprendre à changer? Parce que c'est une chose de comprendre qu'il faut manger autrement, de vouloir manger autrement, mais puis après de savoir manger autrement. Comment est-ce que ça se passe ça?
Bah, c'est une très, très bonne question, parce que ça, tous les jours, ça m'arrive en consultation. En fait, tu as des habitudes de vie qui sont ancrées depuis des années et c'est super difficile de les changer. Alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est on y va step by step. Donc à son rythme, mm-hmm. t'as l'habitude de manger ton steak, tes pâtes blanches, ta compote de pommes le soir. Et ben déjà, on va essayer un soir sur deux d'intégrer des pâtes complètes mm-hmm. ou des pâtes sans gluten, par exemple. On va essayer d'intégrer un légume supplémentaire, de réduire un peu la part des pâtes et d'intégrer un légume. Le lendemain, on va essayer de pas manger du steak, mais de manger un bout de poisson. Tu vois, donc vraiment, en fait, c'est hyper individualisé, tu vois. Ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est que je travaille pas avec un plan alimentaire précis parce qu'en fait, c'est restrictif, c'est chiant. Mmh. Et tu vas peut-être le tenir un mois, trois mois. Et puis il va m'appeler en disant bah Emma j'arrête tout parce que c'est, j'en ai marre quoi, je veux retrouver mon steak et mes pâtes et ma compote, tu vois. Donc c'est vraiment voilà, petit à petit on intègre de nouvelles habitudes. Et en fait à l'issue de la consultation je remets ce qu'on appelle en naturopathie le protocole d'hygiène vitale. En fait c'est le compte rendu de tout ce qui a été dit, toutes les informations qui ont été dites pendant la consultation, plus des conseils spécifiques à mettre en place dans leur quotidien. Et en fait, à chaque fois, je vais parler soit de catégories d'aliments ou alors d'aliments bien précis, mais toujours en fait en faisant le lien avec comment ça influe sur leur métabolisme. Mmh. Et puis leur dire, tu vois, une assiette le matin, comme petit-déj, hop, je vais te donner des exemples, tu peux faire ci, ça. N'oublie pas, tu as tout ce qui est épices, herbes aromatiques qui vont t'aider à réduire l'inflammation, tu vois. C'est à soutenir ton microbiote.
Et donc petit à petit, du coup, au bout de 6 mois, en fait, t'es passé du steak, pâte blanche, compote, à quelque chose de beaucoup plus diversifié et riche en micronutriments.
Ouais.
Sans que ce soit un effort, sans que ce soit du jour au lendemain. Bah, c'est au bout de 6 mois que t'arrives à cette assiette-là, avec une assiette que la personne aime. C'est se construire et c'est continuer à vivre.
Et de temps en temps, le vendredi soir, elle va se refaire son assiette pâte compote et elle va être aux anges.
Elle va profiter deux fois plus. Évidemment. Quoique parfois, même les goûts changent.
Ouais, c'est vrai.
Ça modifie petit à petit.
Ouais, complètement.
Donc, pour résumer, je vais essayer de résumer tout ce qu'on a dit et tu me corriges. Donc, la naturopathie, ce n'est pas juste recommander des plantes. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas juste ça. En tant que naturopathe, tu vraiment regardes un petit peu tout l'environnement de la personne, son activité physique, son stress, son alimentation, ses problèmes qu'elle a eu tout au long de sa vie, pour essayer au final de sortir un plan qui est ultra personnalisé,
complètement,
que la personne va pouvoir introduire petit à petit afin de finalement être autonome parce qu'elle a compris l'impact que ça a sur son microbiote.
Ouais.
Donc, on a dit que le microbiote avait un gros impact aussi sur la façon dont ton poids allait se réguler, notamment parce qu'il a un impact sur ton métabolisme. Mais pas que, on a aussi parlé de tous les impacts que peuvent avoir un microbiote déséquilibré, qui pour rappel, lorsque ce tuyau d'égout est déboulonné à certains endroits et laisse passer certaines choses indésirables, qui vont causer des problèmes de métabolisme, aussi tout autre problème, y compris au niveau plutôt santé mentale. Donc ça, on en a plutôt parlé dans un autre podcast. Et donc, du coup, le but, c'est d'essayer de trouver une assiette qui va être bonne pour le microbiote. Après, parfois, tu fais aussi certaines analyses, notamment l'analyse de sel du microbiote, pour identifier des perturbations précises et pouvoir agir de manière précise là-dessus.
Complètement.
Et pour au final arriver sur une assiette riche en fibres, riche en protéines, sans spécialement avoir trop de graisse animale saturée, trop de protéines animales, pour en fait avoir un microbiote qui fonctionne bien, un métabolisme qui fonctionne bien et du coup une personne qui va pouvoir se stabiliser au niveau de son poids. Mais aussi rester en bonne santé parce que ce n'est pas que la face visible de l'iceberg, l'esthétique, c'est aussi tous des autres enjeux de santé qui petit à petit se créent à cause d'un déséquilibre, en partie à cause d'un déséquilibre qui vient du microbiote.
Ouais.
Je pense qu'on a fait le tour et je ne sais pas si tu as un mot pour la fin, si ce n'est...
Merci.
merci
pour
à
ce
toi.
Podcast. J'espère que ça va éclairer plusieurs personnes, essayer de leur faire un peu plus comprendre des grands concepts qu'on entend partout et on comprend pas forcément tout. Et je pense qu'on a bien vulgarisé, bien démocratisé aujourd'hui le langage. Et c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter. Voilà, peut-être le message à faire passer, c'est pas normal d'avoir des ballonnements après les repas. C'est pas normal de se sentir gonflé dans son jean après avoir mangé. C'est pas normal de pas aller tous les jours à la selle, d'avoir des selles pas consistantes, d'alterner entre diarrhée et constipation. Ça, ce sont des signes d'un microbiote qui est déséquilibré. Et comme on l'a dit tantôt, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc en fait, il y a tout ce qui en découle qu'on ne voit pas et qui est profondément inquiétant dans un sens pour l'équilibre de l'organisme.
Je pense que c'est un bon mot pour la fin. Prenez soin de votre microbiote.
Oui.
Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien.